Hello, c'est Anaïs. Je prends 30 secondes de ton temps avant cet épisode pour t'annoncer que j'organise le mardi 4 juin de 12h à 14h un workshop en ligne intitulé « Marketing responsable, mythe ou opportunité, 5 actions pour s'y mettre aujourd'hui ». Au programme, viens découvrir la réalité derrière les idées reçues et les préconceptions courantes sur le marketing responsable. Apprends à mettre en œuvre 5 stratégies concrètes pour réduire l'impact environnemental et sociétal de ton marketing. Et enfin, découvre comment évaluer efficacement l'impact de tes campagnes grâce à des outils et méthodes. Les places sont limitées, avec des tarifs exclusifs pour les auditeurices à 50€ au lieu de 75. Alors inscris-toi dès maintenant pour faire la différence avec ta stratégie marketing. Le lien est dans la description de l'épisode. Allez, bonne écoute! Bienvenue dans Slow Marketing, le podcast du marketing qui ne veut pas finir comme les dinosaures. C'est le premier podcast dédié à la transition environnementale dans le marketing. Je suis Anaïs, experte en marketing digital. Hello Charlène, c'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui sur Slow Marketing. Avant de commencer, comment ça va ?
Bah écoute, je suis ravie d'être là Anaïs, ravie d'être à tes côtés et de pouvoir échanger avec toi.
Dans cet épisode, nous allons parler de branding et de positionnement responsable. Mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter ?
Oui, avec plaisir. Moi, je suis donc Charlène Patras. Je suis consultante en marketing responsable et je suis plus particulièrement spécialisée dans la création de marques engagées, à mission, à impact. J'accompagne du coup des entreprises ou des indépendants dans la définition de leur offre de manière la plus responsable possible. Et puis, je suis aussi cofondatrice d'une agence de communication responsable qui s'appelle Section Graphique. Donc, j'ai les deux casquettes, marketing et communication, parce que j'ai l'intime conviction que ces deux disciplines doivent être le plus alignées possible pour pouvoir créer une marque qui soit cohérente et qui soit sincère.
Ouh, super intéressant. Tu fais ça depuis combien de temps ?
Écoute, ça fait la partie consulting, marketing, ça fait à peu près 2 ans. Que je l'ai démarré, et puis l'agence de communication, ça a fait une grosse année.
Bon, on va rediscuter, mais qu'est-ce qui t'a animé ou amené à en fait ajouter responsable derrière ton métier de marketing et de communication ?
Ça faisait des années que dans ma pratique au quotidien du marketing ou de la communication, j'étais assez soucieuse de tout ce qui était valeurs, alors des employeurs chez qui j'étais, du coup, de transmettre ces valeurs-là et d'être salarié d'entreprise qui avait des valeurs importantes, notamment des valeurs sociales, puisque j'ai travaillé 8 années dans le milieu du handicap. Donc voilà, je travaillais pour des entreprises qui avaient une vraie mission utile pour la société. Et du coup, j'étais très sensible au fait de mettre en place des stratégies marketing et communication qui relaient ces valeurs-là et qui aient une utilité aussi. Donc c'était déjà quelque chose que je faisais dans mon quotidien. Maintenant, j'avais pas forcément mis de mots dessus. Et c'est quand je me suis lancée en tant que consultante que j'ai voulu poser des mots sur la pratique que j'allais utiliser. Et assez naturellement, j'en suis venue à utiliser voilà cette notion de responsabilité qui englobait pour moi un petit peu plus de choses que la notion de durabilité qui était un peu le pendant sur le marketing, puisqu'en gros moi je voulais vraiment qu'on entende la responsabilité la partie environnementale bien sûr, mais aussi la partie sociale et sociétale.
C'est marrant parce que finalement nos parcours se ressemblent un peu. Mon premier client en freelance, c'est une entreprise d'orthopédie, donc d'appareillage, donc aussi dans le handicap, et avec qui j'ai travaillé pendant 2 ans et demi quasiment. Et ouais, c'est aussi ce qui m'a animée d'abord dans cette démarche. J'ai envie de te dire, on va commencer par le sujet du branding responsable. Est-ce que tu peux déjà nous rappeler ce que c'est que le branding pour une entreprise ?
Oui, bien sûr. Donc, le branding, en fait, c'est assez simple, hein, c'est son identité de marque. C'est comment cette marque, elle va véhiculer qui elle est. C'est comment elle veut qu'on la voit et comment elle va réellement véhiculer ses valeurs et ce pourquoi, en fait, elle a été créée. C'est aussi son élément de différenciation sur le marché, puisque normalement, son branding, s'il est bien fait, il est unique. Chaque marque doit avoir sa propre unicité. Et puis, on peut aussi faire le lien avec le personal branding qui est aussi utilisé donc à la fois par les indépendants qui sont eux-mêmes leurs propres marques qui est utilisé aussi par les dirigeants des entreprises qui communiquent leurs propres valeurs aussi.
Ouais. Et du coup, c'est quoi ton approche pour créer une identité de marque responsable?
Ben en fait, l'idée, c'est d'être finalement le plus sincère possible dans sa démarche. C'est d'arriver à montrer, grâce à l'identité qu'on va créer, réellement qui est cette marque, ce qu'elle représente et ce qu'elle veut être. Donc en fait, là-dessus, on va se baser sur, si on reprend un peu les concepts de stratégie classique, on va se baser sur la mission, la vision et les valeurs de l'entreprise. Donc si on les décompose une par une, le premier point, donc travailler sa mission, c'est la raison d'être de la marque, c'est son pourquoi elle s'est créée. C'est ce qu'elle apporte à ses clients, c'est les bénéfices qu'elle apporte à ses clients, c'est souvent ce qui est formalisé dans le slogan des marques. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de se dire la solution en fait que la marque elle souhaite apporter au problème qu'elle a identifié de son consommateur, comment est-ce que cette solution-là, elle est responsable par rapport à l'impact qu'elle a donc sur les différents champs que j'ai cités avant. Et si on veut le reformuler un peu différemment, c'est quel impact positif moi en tant que marque je veux avoir sur mon client avec la solution que je lui propose. Donc ça, c'est vraiment la partie mission, c'est le cœur de la marque. Ensuite, sa vision, ça va être la projection long terme. Ma marque, quel rôle je veux qu'elle ait dans les 10 prochaines années. Et on va établir des paliers intermédiaires avec des objectifs intermédiaires à 3 ans, 5 ans, 7 ou 8 ans, c'est variable, et puis 10 ans. Et ça va vraiment être des objectifs, en fait, sur chaque palier qu'il va falloir qu'on mette en place, qui vont être un peu les preuves de la vision qu'on a. Et ces objectifs-là, il faut s'attacher au fait qu'ils soient justement éthiques, responsables. C'est-à-dire que chaque sous-objectif, il faut réfléchir à l'impact aussi qu'il peut avoir sur ma stratégie de marque et sur mon environnement. Là, du coup, pareil, hein, si on revient un peu sur la question d'impact positif, c'est comment j'impacte positivement ma cible pendant les 10 prochaines années, étape par étape. Et puis le dernier point, ce sont les valeurs. Ça, c'est un socle qui est fondamental déjà pour toute entreprise, mais forcément pour créer une marque responsable, on ne peut pas le faire sans valeurs fortes. Ces valeurs, c'est les croyances communes de l'entreprise. Elles sont souvent impulsées par le dirigeant ou les dirigeants, les créateurs de l'entreprise, parce que c'est lié à leur pourquoi ils l'ont créé. C'est aussi ce qui va devenir le fondement de la culture d'entreprise plus tard. Et donc qui va être lié là pour le coup aussi à la communication interne, on en reparlera un petit peu après. Et donc ces valeurs-là, moi j'ai tendance à dire qu'il vaut mieux en choisir maximum 5 pour vraiment être sûr qu'on les priorise. Et une fois qu'on les a choisies, de venir les expliciter avec une phrase pour chaque valeur qui donne notre vision de cette valeur-là, parce que chacun a une interprétation différente des mots. Et c'est toujours plus clair de venir en donner son interprétation pour que toutes les parties prenantes, en fait, avec ma marque, les consommateurs, les fournisseurs, soient tous un peu alignés avec ces valeurs. Parce que l'enjeu, effectivement, pour une marque responsable, c'est que ces valeurs soient alignées avec sa partie prenante, qu'elles soient alignées donc avec les valeurs de ses consommateurs, avec les valeurs de ses fournisseurs. Ça peut être les valeurs de ses financeurs. Enfin, voilà, c'est toutes les personnes qui vont venir interagir avec cette marque. Il faut que les valeurs concordent. Voilà un petit peu la base, on va dire, du branding responsable. Bien sûr, une fois qu'on n'a pas fait cette partie-là, il faut que l'offre qu'on fasse derrière, elle en découle et qu'elle soit aussi responsable. On ne s'arrête pas juste à l'image, quoi.
Ouais, je comprends. J'aime bien le fait que tu ailles décrire chaque valeur avec une phrase, parce qu'en fait, souvent, c'est vrai que quand on voit le branding d'une marque ou d'une entreprise et qu'elle donne ses valeurs, c'est des mots qui sont mis comme ça et qui peuvent être un peu vides de sens. Donc, c'est pas toujours évident de comprendre ce qui se cache derrière. Et comme tu dis, chacun peut avoir sa propre interprétation de ce mot, quoi.
C'est ce qui va rendre la marque unique, au final, son interprétation.
Exactement.
C'est hyper important.
Je me demandais sur cette partie cette partie-là d'identité de marque, est-ce que tu accompagnes des entreprises qui sont principalement au démarrage ou aussi des entreprises qui sont déjà lancées depuis plusieurs années? Comment ça se passe? Parce que des fois, il y a des réajustements à faire, je suppose.
Ouais, c'est ça. Alors, les deux, pour le coup. Bon, c'est vrai que c'est toujours super sympa d'accompagner une entreprise qui se lance parce que, on va dire que la feuille est complètement vierge, donc on peut un peu plus se faire plaisir dans les directions qu'on va donner. Donc, j'accompagne pas mal soit de créateurs d'entreprise, soit d'indépendants qui se lancent, enfin voilà, de freelance, des choses comme ça, mais plus des créateurs d'entreprise parce que c'est souvent plus eux qui vont avoir, pour le coup, besoin de réfléchir de manière profonde à leur stratégie globale et à leur identité. Par contre, ça m'arrive aussi souvent d'accompagner des entreprises qui ont en général 2-3 ans de vie, qui ont voulu lancer un business et qui avaient besoin assez rapidement de trésorerie, qui ont aussi voulu lancer business pour tester le marché, hein, c'était un peu du test and learn. Une fois que la boîte elle est bien établie, que ça tourne, ils se rendent compte que pour pouvoir passer à l'étape supérieure, pour pouvoir accélérer, ils ont besoin de mettre en avant une vraie identité pour eux en interne, parce qu'en général, ils ont grossi aussi, ils ont des salariés. Et ils se posent forcément la question de la culture d'entreprise, de la communication interne et de la politique RH. Pour l'externe, pour se différencier face à la concurrence, à un moment donné, pour se différencier, il faut déjà savoir qui on est et ce qu'on représente. Souvent, c'est des questions qui sont éludées dans le feu du quotidien. Voilà, c'est pas les choses sur lesquelles on se pose dès le début. Enfin, pas tout le monde, en tout cas.
Dans nos échanges, tu avais souligné vraiment que le cœur de ton expertise, c'était le positionnement marketing responsable. C'est un sujet d'ailleurs que j'avais abordé dans le premier épisode de Slow Marketing. Et j'aimerais vraiment avoir ton retour sur le sujet et surtout comment ça se déroule lors de tes accompagnements.
Dans ce que tu avais évoqué, tu avais mentionné le fait que dans le marketing responsable ou le marketing durable, on utilisait pour créer la stratégie marketing de l'entreprise, non pas 4 P, mais 7 P. Donc, quand on revient sur le marketing mix, hein, qui est un des gros outils fondamentaux de la stratégie marketing, donc les 4 traditionnels qui sont product, place, promotion et price, il m'en manquait un. Donc, le produit, son prix, ses canaux de communication et ses canaux de distribution. Et donc, tu avais rajouté donc les trois responsables, donc planet, people et purpose, donc le but, les gens, enfin les personnes et puis la planète. Et moi, je voulais revenir, tu vois, sur les 4 premiers parce que très souvent aussi, j'insistais sur les 3 nouveaux parce qu'ils n'étaient pas connus. Mais en fait, l'idée, c'est vraiment aussi de retravailler sur les 4 fondamentaux de ton mix, en mettant un peu ta casquette monsieur, madame, responsabilité et en te disant comment chaque item, je vais venir le travailler de manière responsable. Donc là, c'est vraiment finalement le nœud de la construction de ton offre responsable. Donc typiquement, on va les prendre un par un, ça sera un petit peu plus simple avec des exemples. Moi, une fois que j'ai fini toute la phase, donc dans mon accompagnement, toute la phase d'audit diagnostic, audit quand il y a de l'existence sur une marque qui est déjà lancée, et diagnostic, étude de marché, en gros, quand c'est une nouvelle marque, on a beaucoup de data, beaucoup de données, beaucoup d'infos, et là, l'idée, c'est de se dire, ok, maintenant que je connais mon marché, les concurrents, les cibles, enfin tout ça, comment est-ce que je fais pour me lancer sur ce marché et du coup, comment je me positionne et quelle offre je construis. Donc la première chose qu'on va venir étudier, c'est le produit. Et là, typiquement, que ça soit une offre de produit ou une offre de service, la question qu'il faut se poser, c'est comment est-ce que je construis mon offre de manière responsable. Donc en gros, de manière à ce qu'elle ait l'impact environnemental le plus bas possible, mais aussi de manière à ce qu'elle ait l'impact économique et social le plus positif possible. Je te donne un exemple. Alors quand on parle de produit, c'est tout de suite un petit peu plus facile sur la partie produit matériel, mais on va dire pour diminuer l'impact environnemental, il y a tout ce qui va être éco-conception de produits, donc travailler sur les matériaux, sur la gestion des déchets, sur la gestion des matières premières. Donc vraiment toute cette partie purement physique. Ça peut être aussi sur la gestion des énergies liées au processus de fabrication. Enfin voilà. Et puis quand on travaille aussi sur la partie impact positif sur un produit, toujours on va venir réfléchir à la réparabilité du produit pour avoir un produit le plus durable possible, la mise à disposition de pièces détachées ou de tutoriels pour les consommateurs pour qu'ils puissent venir le réparer eux-mêmes. Ça, c'est des choses qui sont importantes aussi. Ça peut être de travailler à donc l'impact économique de mon produit. C'est par exemple, je travaille qu'avec des fournisseurs français ou avec des fournisseurs locaux, régionaux pour avoir un impact économique positif. Ça peut être aussi de travailler aux bénéfices clients pour répondre à une problématique, je sais pas moi, sur une minorité. Il y a une minorité de la population, bah, tout à l'heure on parlait de handicap par exemple, qui va avoir une problématique bien spécifique. Je viens concevoir un produit qui va venir l'aider et donc avoir un impact positif immédiat sur ma cible. Voilà, c'est vraiment de concevoir l'intégralité de son produit par rapport à l'impact qu'il va avoir, positif et négatif. On peut le faire hein, aussi, c'est un travail qui est un peu différent, mais on peut le faire aussi sur son offre de service, bien sûr. Donc ça, c'est la partie produit. Le deuxième P, donc le prix. Là encore, on peut le réfléchir de manière responsable. On va un peu plus parler d'éthique, souvent. Donc c'est en gros bah, le fait de fixer un prix qui soit juste par rapport au reste du marché, par rapport à ce que ça nous a coûté réellement, par rapport aux bénéfices que ça va apporter à mes clients aussi. Il y a par contre des champs qui sont un peu moins évidents, la rémunération équitable pour mes salariés, pour mes fournisseurs. À un moment donné, si je veux fournir un produit de qualité, il faut aussi que je rémunère correctement mes fournisseurs. On peut envisager aussi des offres tarifaires qui soient, comment je pourrais dire, accessibles selon différents critères. Par exemple, des offres à palier en fonction de situations spécifiques. Ça peut être le niveau de ressources des personnes, ça peut être le nombre de salariés dans une entreprise. Ça peut être le nombre d'options que l'entreprise ou le particulier va prendre dans mon offre. L'idée, c'est vraiment d'avoir un prix au plus juste possible. Le troisième point, donc, c'est la partie distribution. Alors là, il y a des choses qui sont un peu évidentes, qui vont être la partie packaging, le matériau qui va être utilisé pour le packaging. Mais il y a des choses aussi qui peuvent aller un peu plus loin. Par exemple, sur le fait d'utiliser un packaging réutilisable. Retournable, il y a pas mal d'entreprises qui se lancent là-dedans. Il y a des packagings qui sont compostables, ça c'est assez sympa aussi. En plus, au-delà du côté écologique, c'est souvent des packagings qui esthétiquement sont intéressants aussi. Donc c'est plutôt sympa d'en tirer bénéfice. Ça peut être les produits avec des recharges pour voilà diminuer l'impact du flacon dans la cosmétique notamment. Il y en a pas mal qui font ça. Le choix du mode de transport, le fait de regrouper les livraisons. Il y a beaucoup d'entreprises qui se sont lancées là ces derniers temps, des startups sur, bah, par exemple, le dernier kilomètre, il est fait à vélo, mobilité douce, voilà, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment le fait de prendre en compte toutes les étapes. Ça passe aussi, par exemple, par les canaux de distribution comme la précommande. Le fait de ne produire qu'une fois que le produit il a été déjà commandé. Alors, c'est pas adaptable à tout. Dans tout ce que je viens de citer, il faut regarder son marché et puis il faut se dire, ben moi, qu'est-ce que je peux faire par rapport à ce qui existe. Mais il y a toujours une solution, en fait, qui est plus responsable qu'une autre. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire l'équilibre bénéfice-impact. Et puis, ben, le dernier champ, c'est la partie communication. Et là, pour le coup, c'est de se dire quel est l'impact environnemental et social de ma stratégie de communication et des outils de communication que je vais avoir qui, bien sûr, ont un impact notamment sur l'environnement et qui n'est pas un impact encore très couramment pris en compte par les entreprises.
Dans les exemples sur la partie prix, j'avais en tête par exemple Canva, donc outil de design en ligne,
oui,
qui est gratuit pour les associations.
Oui, tout à fait.
Par exemple, ça c'est une manière effectivement d'avoir une offre de prix qui permet bah, justement à des associations de pouvoir accéder à tous les outils, toute la gamme pro gratuitement. Et pouvoir promouvoir du coup leurs activités. En entendant tes exemples, je me demandais, toi tu accompagnes surtout des entreprises qui travaillent sur des produits ou aussi sur des services ?
Non, les deux. J'aime bien, enfin même plus des services que des produits pour le coup. Moi j'aime beaucoup travailler sur le service. Tu vois là typiquement j'accompagne un organisme de formation.
Ouais.
Donc, on va dire que certes, il y a un produit parce que le produit c'est l'offre de formation, mais c'est pas un produit physique palpable. Et voilà. Et là, typiquement, c'est chaque étape, on le réfléchit sur le prisme de la responsabilité. Donc, ça va être le canal de diffusion de la formation, présentiel ou en ligne. Enfin voilà, toutes ces choses-là qu'on vient réfléchir, quoi.
Et il y a tous les sujets aussi pour revenir au handicap qu'on a mentionné avant, d'accessibilité.
Tout à fait.
En physique, mais aussi en ligne, parce que c'est des sujets qui ne sont pas beaucoup évoqués.
C'est un point que j'utilise beaucoup, moi, auquel je sensibilise beaucoup sur la partie communication, l'accessibilité. Pour le coup, accessibilité en ligne par rapport à tout ce qui est outils numériques. C'est un point qui est hyper important sur comment concevoir des outils de communication qui soient accessibles.
T'as des conseils ?
En fait, il y a des bonnes pratiques. Encore faut-il les connaître et c'est pas toujours évident. Dans la notion d'accessibilité, déjà, faut prendre en compte pas mal de publics différents. Il y a les non-voyants, les malvoyants, les troubles psy, la déficience intellectuelle. Enfin voilà, il y a énormément de différences et de diversité. Et pour chaque problématique, j'ai envie de dire, il y a des solutions qui sont un petit peu différentes. Ça va être par exemple de travailler la mise en page de son document d'une certaine manière, donc par rapport à la gestion des espaces entre les paragraphes, par rapport à l'alignement de ces paragraphes. Par exemple, on centre pas un document. On a plutôt tendance à un document, une page web par exemple, tout ce qui est numérique, on va venir plutôt l'aligner à gauche parce que ça facilite la lecture.
Ok.
Ça va être le choix de la typo. On évite toutes les typos script, tu sais, écriture manuelle là, qui sont cursives, qui sont hyper belles, ça c'est pas un problème, mais qui sont très très difficiles à lire pour certaines personnes. Déjà pour moi qui n'ai pas de difficulté particulière, c'est pas toujours évident. donc voilà, faut venir un petit peu aider à la lecture selon les différentes problématiques, la gestion des couleurs aussi. Là, il y a un gros point sur la partie contraste. En fonction du contraste que tu veux utiliser entre ta couleur de fond et ta couleur d'écriture, ça va être plus ou moins lisible pour les personnes qui ont des troubles visuels, notamment. Y a un point qui commence à être de plus en plus connu quand même, c'est la partie texte alternatif sur les images.
Ouais.
Qui est de plus en plus connu à la base parce que les gens pensent que c'est fait pour le référencement. Le fait de mettre un texte alternatif sur nos images, sur nos sites internet ou quoi, mais en fait non, c'est pas, ça a pas été, enfin le but premier c'est pas de le faire pour être mieux référencé, le but premier c'est de le faire pour que les personnes qui utilisent un lecteur d'écran puissent savoir ce qu'il y a sur l'image puisqu'ils ne la voient pas, donc en général ce sont les personnes malvoyantes ou non-voyantes.
Souvent, le problème avec ces textes alternatifs qu'on pense qu'ils sont là pour le référencement, c'est que du coup, on se retrouve avec un espèce de fourre-tout de mots-clés qui vient pas du tout décrire l'image.
Non, pas du tout. Le but, c'est juste de dire ce qu'on voit sur l'image. Donc, si on voit un monsieur sur un vélo qui traverse un passage piéton, on dit ça. On fait pas hashtag vélo, hashtag passage piéton, ça marche pas, typiquement. Donc, effectivement, je suis d'accord avec toi. Si on comprend pas l'utilité du texte alternatif, on tombe à côté en pensant bien faire. Mais voilà, ça fait partie de ces petits outils. Il y en a pas mal, en fait. Il y a beaucoup en matière de communication. Responsable, que ce soit par rapport à la partie environnementale, par rapport à l'accessibilité, par rapport à tout ça, il y a énormément en fait d'astuces à connaître et on ne demande pas, à part des personnes qui sont dans le métier de la communication finalement, et encore on n'est pas tous formés à ces sujets-là qui sont très très nouveaux et qui ne sont pas forcément enseignés dans les écoles. On ne peut pas demander à des entreprises lambda de savoir en fait ce qu'il faut faire, quoi.
Comment est-ce que toi, tu intègres du coup ces principes de responsabilité environnementale dans la stratégie de communication des entreprises que tu accompagnes ?
On va dire que la base, c'est déjà d'avoir une stratégie de communication, donc le fond, qui soit responsable. Donc ça veut dire être le plus transparent possible. Le fait de cacher quelque chose, clairement, ça n'a rien de très éthique. Ça veut dire être le plus respectueux possible aussi envers toutes les parties prenantes, envers ses fournisseurs, envers ses consommateurs, par exemple. Ça va être le fait d'être le plus inclusif possible. Donc là, on parlait de la partie plutôt outils, mais par contre, déjà dans le fond du message, on a tout intérêt à être le plus inclusif possible. Donc ça veut dire s'adresser à l'intégralité de la population. Donc bien sûr, homme-femme, mais ça j'ai envie de dire, c'est presque plus un sujet, heureusement. C'est presque plus un sujet aujourd'hui de s'adresser et aux hommes et aux femmes. Mais par contre, on parle du discours, on parle aussi des visuels qui vont avec. Là, il y a encore un petit peu de travail sur On voit qu'il y a des marques qui l'utilisent. Alors après, il faut toujours faire très attention à cette notion de greenwashing, mais on voit qu'il y a des marques qui commencent à mettre en avant des visuels avec, bon, typiquement une marque de lingerie avec des femmes de toute ethnie, de toute corpulence. Enfin voilà, pour mettre en avant le côté, on est ouvert à toutes les cibles. Ok, c'est sympa. Maintenant, il faut voir ce qu'il y a derrière. C'est pour ça que moi, je dis toujours à mes clients, pas de communication responsable s'il n'y a pas de marketing responsable avant. Sinon, vous tombez dans le greenwashing en fait. Mettre en avant tout ce que vous faites de génial en termes de communication, si derrière votre marque, elle n'a pas une offre qui va avec, qui est responsable, ça sert complètement à rien. Enfin, c'est même très dangereux, ça peut être sanctionné par pas mal de, pas mal de lois. Donc, mieux vaut être prudent. Mais bon, voilà, donc la base, c'est vraiment déjà d'avoir une stratégie de communication qui soit transparente, respectueuse, inclusive dans les contenus qu'elle va proposer, dans le discours qu'elle va tenir. Et puis ensuite, ça va être de réfléchir à l'impact de sa communication sur l'environnement, sur les parties prenantes. Et ça, ça va impacter tous les outils de com que tu vas choisir, en fait. Donc, à la fois les outils de com web, numérique, et les outils de com print, papier. Alors, je te donne des exemples. Si tu prends toute la partie numérique, ton site internet, est-ce que tu sais, mais tu penses dès le début à créer un site internet qui pollue le moins possible? Ça veut dire choisir un hébergement vert, puisque c'est comme ça que ça s'appelle pour l'instant. Donc, il y a quelques noms hein, d'hébergeurs verts comme Infomaniac qui fait un peu référence dans le secteur actuellement, mais qui n'est pas du tout le seul. Voilà, qui en gros est une solution d'hébergement qui utilise des énergies renouvelables, qui va venir utiliser des serveurs beaucoup plus longtemps, qui va acheter moins de serveurs. Enfin voilà, qui prend en compte une grosse politique environnementale de base. Il faut savoir que l'hébergement en fait de son site internet, c'est déjà quasiment la moitié de l'impact environnemental de ton site internet. Donc c'est déjà le premier point qu'il faut faire. Et puis derrière, il y a ce qu'on appelle l'éco-conception web. Il me semble que tu en avais déjà parlé. Qui vient en fait juste créer ton site internet de manière la moins polluante possible. Et on peut y annexer à ça le côté accessibilité. Donc, comment faire un site internet le plus accessible possible, comme ça tu remplis les deux champs environnementaux et social et t'as tout bon sur le papier. Donc, c'est plutôt pas mal. Il y a aussi tout ce qui est, moi je sensibilise beaucoup mes clients à la partie réseaux sociaux et à la sobriété sur les réseaux sociaux. Ça veut dire pas publier tous les jours déjà, parce qu'à chaque fois que tu postes quelque chose, ça pollue. De réfléchir aussi à le format de tes posts. Donc voilà, est-ce que tu mets que du texte, est-ce que tu mets des photos, est-ce que tu mets des vidéos. Enfin voilà, tous les contenus n'ont pas le même poids et donc pas le même impact. Donc ça, c'est des choses aussi auxquelles je sensibilise mes clients. Et puis donc ça, c'est globalement la partie numérique. Sur la partie papier, on va venir réfléchir à toutes les composantes en fait de nos outils comme papier, plaquettes, cartes de visite, enfin tout ce qui va venir s'imprimer hein, pour le coup. Et là, tu réfléchis au choix de ton imprimeur, au choix de ton papier, au choix de tes encres, et même au choix de ta mise en page. Ça commence dès le travail des graphistes pour le coup. C'est comment elles vont, je dis elles parce que je suis biaisée, il y a beaucoup de femmes, comment les graphistes vont concevoir le document de manière à qu'il pollue le moins possible. Donc par exemple, travailler sur les marges d'un document pour pouvoir faire moins de pages. Ça peut être de travailler sur tout ce qui va être aplat de couleurs, en mettre le moins possible, parce que plus tu mets des aplats de couleurs, plus ça consomme de l'encre. Ça va être aussi de travailler tout ce qui est choix de ta typo et choix de tes couleurs. Là, en fait, on a deux outils qui sont assez sympas, qui sont les éco-typographies et les éco-couleurs. Donc, les éco-typographies et les éco-couleurs, elles ont le même but, c'est de consommer le moins d'encre possible. Il y a des référentiels qui existent, qu'on peut trouver, qui ont été créés soit par des graphistes, soit par des imprimeurs, soit par des agences de com. Enfin, voilà, on arrive à trouver pas mal de référentiels qui nous permettent de dire, voilà, ces couleurs-là, elles ont un taux d'ancrage qui est limité à 100%, là où normalement, le taux d'ancrage, en fait, classique d'une couleur, c'est 300%. Donc, toi, c'est divisé par 3. Et du coup, ça permet de réduire, le niveau d'encre qui est utilisé lors de l'impression, et donc de moins polluer parce que bah, l'encre, c'est quand même quelque chose qui pollue relativement. Pareil sur les typographies, tu as des typographies qui sont, quand on le regarde, si on devait les zoomer, tu verrais qu'elles sont un peu ajourées. En fait, elles sont pas complètement pleines au niveau de l'encre. Et il y en a même qui jouent avec ça d'un point de vue graphique, qui font des typos assez sympas justement avec avec des formes un peu géométriques, enfin voilà, avec beaucoup plus de blanc que de noir finalement dans la typo, qui reste lisible bien évidemment. mais voilà, du coup il y a des choses qui sont assez sympas et qui en plus ont un impact environnemental réduit, donc ça c'est plutôt des bonnes pratiques. Et puis je parlais tout à l'heure du papier, là c'est important aussi de penser au papier. On pense quand on n'est pas forcément spécialiste du sujet qu'un papier recyclé c'est une bonne idée. C'est un premier pas, je dirais, de manière très mesurée, mais c'est pas suffisant. En fait, il faut savoir que pour recycler du papier, on consomme énormément d'eau et énormément d'énergie parce qu'on lave le papier. Et ça, c'est polluant hein, par essence, et puis ça consomme de l'énergie et l'eau qui est une ressource vitale et non inépuisable. On s'en rend compte un petit peu en ce moment. Donc du coup, moi j'ai plutôt tendance à conseiller des papiers qu'on appelle écologiques. C'est pas encore la gamme de papier la plus étendue sur le marché. Il y a pas mal d'initiatives qui sont en train de se créer. Mais il y en existe quand même. Ce sont des papiers qui sont fabriqués à base de déchets, de végétaux, enfin des déchets alimentaires et végétaux, fruits et légumes en gros, qui sont plutôt liés à la surproduction agricole. Donc c'est en fait tout ce qui ne peut pas être consommé parce qu'ils sont pas beaux, pas ci, pas ça. Et donc par exemple, tu as des papiers qui sont faits à base de déchets de raisin, de choses comme ça. Et en plus de ça, du coup, ces papiers-là sont assez sympas parce qu'ils ont une petite coloration. C'est pas des papiers tout blancs, bien évidemment, et ce sont des papiers dans lesquels tu vois un petit peu de matière vivante. Les papiers se ressemblent pas et d'un point de vue créatif, tu peux faire des trucs sympas.
Ah, super intéressant. Je connaissais pas du tout ces types de papier-là. Je savais qu'il y avait un vrai sujet sur le papier et notamment le papier recyclé comme tu l'as mentionné, mais aussi même tous les papiers qui viennent soi-disant de qui ont des écolabels, etc. Il y a pas mal de scandales aussi sur. C'est pas si responsable que ça. Enfin, il y a beaucoup d'opacité.
C'est ça.
Sur ce secteur.
Non, puis. Il y a des acteurs qui jouent dessus, enfin, clairement, qui en ont fait un business. Donc, après, on est méfiant, on ne sait pas trop voilà, qui est réellement bénéfique et qui en a tiré profit. Concrètement, le papier qui polluera le moins, c'est le papier qui vient du bois le plus proche de chez nous et qui a été fabriqué le plus proche de chez nous. Et du papier fabriqué en France, je peux t'assurer qu'il n'y en a pas beaucoup. Il y a quelques initiatives, mais il n'y en a pas beaucoup. Il y a des relocalisations, justement, de fabricants de papier. Avec lesquels on travaille, mais il y en a vraiment pas beaucoup.
Et est-ce que tu as du coup pour terminer des exemples de marques avec lesquelles tu as travaillé ou pas qui ont adopté une identité de marque responsable réussie?
Alors je vais pas te citer une marque avec laquelle j'ai travaillé, mais je vais citer une marque qui m'inspire, enfin voilà, que je trouve assez intéressante. Alors moi qui suis maman, je suis très intéressée par tout ce qui est marque liée aux enfants. Là, c'est un intérêt purement personnel et donc du coup, je connais assez bien l'écosystème, des marques de jeux, jouets et produits pour enfants. Là, je vais citer la marque qui s'appelle Le Jouet Simple. Donc, il y a une entreprise qui est assez récente, je dirais 2020 ou 2021. Enfin voilà, qui fait partie des dernières années là. C'est une marque de jouets, donc, comme son nom l'indique, qui a un superbe alignement entre son identité, qui est en gros sa marque de fabrique, le fait d'être simple, donc ça tu le trouves dans son nom, entre donc son identité, son branding, son offre, qui a créé une offre dépouillée du superflu, et sa communication qui est hyper sobre. Clairement, ils communiquent pas tous les jours. Tu peux aller regarder. Moi, je les ai sur LinkedIn et puis j'ai déjà un peu discuté avec les dirigeants. Voilà, ils sont très mesurés. Ils ne communiquent que quand c'est utile. Voilà, de manière très très juste. Et en fait, ils fabriquent donc leur positionnement, c'est de repenser la fabrication de jouets en intégrant ça dans l'économie circulaire. Ils font de l'éco-conception en France. C'est des jouets qui sont fabriqués en plastique recyclé à 100%. Et ils sont donc monomatières. Ils sont moulés d'une certaine façon que le jouet, en fait, c'est vraiment mono... Je sais pas comment expliquer, mais c'est très, très simple, en fait, en termes de design, c'est très épuré. Ça fonctionne très bien, du coup, aussi avec les enfants, parce qu'il ne faut pas oublier que ça a une utilité vis-à-vis des enfants et que souvent, ce qui est simple fonctionne très bien avec les enfants. Ils sont donc durables dans leur conception. T'as pas d'électronique non plus. Enfin, voilà, c'est des choses qui sont... on revient aux basiques, en fait, sur des jouets d'éveil, hein, essentiellement. Et ces jouets sont consignés, c'est-à-dire qu'ils partent du principe que quand tu les utilises plus, tu leur renvoies et ils les refondent, puisque c'est du plastique, et ils refont des jouets avec. Voilà, donc non seulement le principe est assez vertueux, mais en plus, leur identité de marque, elle est très simple. Enfin voilà, on comprend justement, c'est d'être simple. Leur produit, il est simple, il n'y a aucun problème, et leur communication, elle est sobre. Donc il y a un super alignement, je trouve, sur cette entreprise-là, au-delà du fait qu'il y a une utilité des produits, bien évidemment.
Du coup, tu as mentionné le sujet de sobriété sur les réseaux sociaux et je voulais te rebondir dessus tout à l'heure. Moi, c'est un sujet sur lequel je te rejoins complètement. Je pense que c'est pas nécessaire de publier tous les jours sur tous les réseaux et d'être présent avec tous les formats possibles. Par contre, je trouve que c'est très difficile comme argument à maintenir et à tenir dans le temps quand, justement, quasiment tous les jours, on entend des influenceurs de communication, personal branding, marketing, etc. en général, qui recommandent de publier tous les jours sur les réseaux, de mettre une image pour faire un stop scroller sur le fil d'actualité, etc. Et voilà, je voulais voir comment toi, tu te ressentais par rapport à ces messages-là et comment tu arrivais à te positionner.
En fait... j'ai deux choses qui me viennent en tête. La première, c'est que nous, en tant que, en général, enfin, solopreneur, indépendant, enfin voilà, toi et moi, pour le coup, on est quand même, on est beaucoup alimenté par ce type d'information et potentiellement beaucoup plus que, enfin moi, mes clients, typiquement, c'est pas du tout des informations qui arrivent jusqu'à eux, c'est pas des informations qui les impactent. Et au-delà de ça, c'est pas ce dont a besoin leur cible. Parce que ce soit des clients en B2B ou en B2C, dans les deux cas de figure, ça se vérifie. Finalement, les réseaux sociaux, on en fait tout un pataquès. C'est pas non plus l'alpha et l'oméga. Et si on prend un peu de recul et qu'on regarde le plan de com dans sa généralité, dans sa globalité, moi, bien souvent, je me rends compte que le poids, le retour sur investissement de la communication qui est faite sur les réseaux sociaux nécessite pas qu'on en fasse autant que ce qui est préconisé, clairement. Tu vois, sur des marques qui sont produits de grande consommation, alors oui, ok, un réseau comme Instagram peut avoir son importance, mais un bon reportage dans les médias bien classiques, ça marche vachement bien aussi, tu vois, un reportage télé, radio, tout ce que tu veux. Et ça a une retombée beaucoup plus large en termes d'influence. Alors, je dis pas qu'il faut faire que ça, mais l'idée, c'est de mixer ces outils et que finalement, quand on prend un peu de recul dans son plan global, pour une entreprise en tout cas, on se rend compte que voilà, il faut peut-être un peu minimiser, déstresser un peu sur cette notion de réseaux sociaux parce que on est vite pris par oui, il faut absolument que je fasse. Et puis en fait, quand on mesure un peu le retour sur investissement, pas forcément. Ça c'est le premier point et le deuxième c'est que il faut pas non plus être rigide, tout est question d'équilibre et moi ce que je dis à mes clients c'est faut voir en gros le total en bas de page, donc peut-être que vous allez plus communiquer sur les réseaux sociaux parce que votre cible elle est vraiment là, il y en a vraiment besoin et ça sera difficile d'aller chercher de la clientèle si vous communiquez pas plus que ce que j'ai l'habitude de préconiser sur les réseaux sociaux. Par contre, à côté, faites en sorte d'être les plus vertueux possibles, les plus respectueux possibles sur les autres champs. Ayez une politique de déplacement irréprochable. Parce que on parle de marketing et de communication, mais c'est intimement lié avec la politique RSE de l'entreprise et il faut prendre en compte tous ces gens-là. Hein. Donc effectivement, la politique RH, la politique de déplacement, la logistique, enfin tous les gens sont impactés. Donc en gros, au poids total de votre entreprise. Peut-être que oui, vous allez communiquer 3 fois par semaine sur les réseaux sociaux, ok, d'accord, ça pollue, ok, d'accord, mais si à côté vous avez une démarche sur d'autres choses qui est hyper clean, bon, finalement en bas de page on sera bien, quoi.
Charlène, si je te dis slow marketing, tu penses à quoi?
Écoute, dans un premier temps, ce qui me saute aux oreilles, c'est le mot slow, donc je pense vraiment à cette notion de ralentir. Et pour moi, ralentir, ça veut dire prendre le temps de réfléchir, de se poser sur le long terme, construire quelque chose de pérenne. Et c'est aussi, du coup, cette notion d'être en veille permanente des évolutions de notre marché pour rester toujours dans cette notion d'utilité, de réelle utilité, je dirais, et d'être en phase avec les besoins réels de sa cible, de pas déconnecter, en fait.
Selon toi, qui est-ce que je devrais inviter sur ce podcast?
Écoute, je vais pas te citer de nom de personne, mais par contre, j'aimerais bien voir des jeunes créateurs, tu vois, de marques engagées venir. Donc là, c'est plus des marques que je vais te citer que le nom de leur fondateur. mais voilà, je trouve que ça serait intéressant d'avoir la vision aussi de ces marques-là, qui sont des marques engagées, et comment elles ont créé leur stratégie marketing, quelles questions un peu les ont taraudées, les difficultés qu'elles ont pu avoir, enfin voilà, ce qui vient étitiller un petit peu. Et alors du coup, je t'ai dit tout à l'heure, j'ai une passion pour les milieux de l'enfance, donc il y en a quelques-unes qui sont là-dedans. Non, il y a deux marques que j'aime bien qui sont dans la food à destination des enfants et qui sont plus ou moins en phase de création, enfin voilà, qui lancent leurs produits là sur 2023, donc je trouve que c'est intéressant de les voir dans ces phases-là. La première marque, c'est Popiette au pluriel, qui crée des plats pour les enfants de manière très ludique et qui vient travailler la pédagogie sur l'alimentation. Et la deuxième, c'est Alba Baby Food, qui vient travailler là pour le coup pour les bébés, tout ce qui est petit pot frais. Donc c'est un autre concept. Je trouve que ces deux marques-là, ça peut être intéressant. Et puis une dernière sur la location de jouets, Lib et Lou. Voilà, pareil, là, la location de jouets, c'est un concept. Je suis très économie circulaire et ces choses-là, parce que je trouve que c'est des initiatives dont on a besoin. Voilà, c'est pareil, c'est une marque qui est peut-être un petit peu plus vieille, mais qui a peut-être 2 ans. Mais qui peuvent te faire un retour d'expérience, je pense, sur les enjeux marketing et com qu'elles peuvent avoir en tant que marque engagée.
Ouais, super intéressant. Surtout que le marché de l'enfance et de la petite enfance en particulier, je trouve a plein de potentiel d'innovation et de justement changer les pratiques. Mais en même temps, c'est tellement difficile parce que c'est des sujets tellement avec beaucoup d'émotionnel, hyper sensible d'aller toucher un secteur comme ça où on se dit bah attends, acheter un jouet de seconde main, ben non, je vais acheter quelque chose de neuf. Enfin, s'il y a beaucoup d'idées reçues, etc. Donc c'est pas évident.
C'est des marchés qui sont en cours de réactualisation et moi c'est ça que j'aime bien, voir comment ils se réadaptent en fait aux nouveaux enjeux.
Écoute, Charlène, merci beaucoup pour cette conversation. Est-ce que il y a un endroit où on peut te retrouver, te lire, ou c'est le plus intéressant de te suivre?
Oui, alors moi, je suis monocanal. Pour l'instant, je suis 100% LinkedIn. Donc, c'est là qu'on me retrouve assez quotidiennement, quasiment. voilà, beaucoup plus en fait d'observation que de rédaction, puisque je m'applique à moi-même le fait d'essayer de ne poster qu'une fois par semaine, si j'y arrive. Donc voilà, et puis d'ici quelques semaines je sortirai mon site internet éco-conçu, bien sûr, mais pour l'instant c'est LinkedIn.
Ok, super, je ne manquerai pas d'ajouter et ton LinkedIn et ton site quand il sera en ligne dans les descriptions de l'épisode. Merci beaucoup.
Super, avec plaisir.
C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Si tu ne veux rien louper, abonne-toi à la newsletter ou à mon profil LinkedIn Anaïs Baumgarten. Tous les liens sont dans la description. Merci pour ton écoute et à très vite sur Slow Marketing.